Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Nous irons d'abord à Bruxelles où le sommet sur les postes clés de l'Union européenne est suspendu faute d'accord, un échec qui donne une très mauvaise image de l'Europe, commente Emmanuel Macron. Un drapeau de l'époque britannique déployé dans le Parlement de Hong Kong, les manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin ont envahi l'hémicycle en ce jour anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. En France, nous nous pencherons sur le nouvel encadrement des loyers à Paris et sur le plan internat du ministre de l'Éducation. Réunion, tractation, blocage. Le partage des postes de pouvoir de l'Union européenne n'a toujours pas abouti. Les négociations sont suspendues. Elles doivent reprendre demain matin à Bruxelles. Ce matin, une hypothèse tenait la corde. Le social-démocrate néerlandais Frans Timmermans, président de la Commission européenne, et la bulgare Kristalina Georgieva du PPE à la présidence du Conseil européen. Mais les familles politiques n'ont pas réussi à s'entendre, ce qui risque de nuire à l'image de l'Union européenne, Angélique Boin.
Oui, et de mémoire de Bruxellois, on n'avait pas vécu un sommet aussi long et si complexe depuis 2015 et la crise grecque. Toute la nuit, le président du Conseil, Donald Tusk, a négocié avec les chefs d'État et de gouvernement, en tête à tête, en petits groupes, puis de nouveau en plénière à 28 autour des croissants. Et l'on a bien frôlé un accord, a confirmé en quittant les lieux le président français. Accord qui a chopé en raison de division des familles politiques. Avec la fin du duopole gauche-droite au Parlement, elles ne sont plus deux, mais trois à devoir trouver un compromis. Un consensus semblait pouvoir avoir été trouvé en marge du sommet du G20 à Osaka, mais une partie des dirigeants issus de la droite européenne aurait fait monter les enchères en échange de la nomination du socialiste Frans Timmermans à la présidence de la Commission, les libéraux exigeant de leur côté leur part de pouvoir. En quittant les lieux, Emmanuel Macron a dénoncé des ambitions personnelles qui n'avaient pas lieu d'être autour de la table. Le président français s'est dit également inquiet de l'image que cela donne de l'Union européenne.
Notre crédibilité est profondément entachée avec ces réunions trop longues qui n'aboutissent à rien. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse. Je souhaite donc à l'issue de ce processus, d'abord, nous prenions le temps qu'il faut pour nommer la bonne équipe, celle qui permettra d'avoir des réunions mieux préparées et d'accéder à des solutions concrètes. Mais ensuite que nous réfléchissions aussi à la simplification de nos procédures et à une avancée beaucoup plus forte, à la fois plus démocratique et plus efficace de notre fonctionnement collectif.
Emmanuel Macron qui espère néanmoins un accord rapide demain car les candidats crédibles, dit-il, sont connus. Même tonalité chez l'Espagnol Pedro Sanchez. Quant au Néerlandais Mark Rutte, il n'a pas caché que l'équation restait incroyablement compliquée. Ce sera compliqué, c'est aussi le terme employé par la chancelière allemande qui a estimé qu'il fallait laisser reposer les choses. Rendez-vous donc demain.
Angélique Boin, en direct de Bruxelles. Autre sujet de discorde entre les membres de l'Union, l'accueil des migrants. La capitaine du navire humanitaire Sea-Watch a été auditionnée cet après-midi au palais de justice d'Agrigente, en Sicile. Elle avait été arrêtée samedi après avoir fait accoster son navire dans le port de Lampedusa. L'Allemande Carola Rackete avait décidé de passer en force pour permettre à la quarantaine de migrants encore à bord d'être enfin pris en charge 17 jours après leur sauvetage en mer. Aujourd'hui, l'Allemagne demande la libération de la capitaine et de nombreux Allemands lui apportent leur soutien, Ludovic Piétenu.
Oui, la mobilisation s'exerce tous azimuts, populaire d'abord avec des rassemblements dès hier soir à Munich devant le consulat italien, aujourd'hui encore à Hambourg, Francfort et Berlin devant l'ambassade d'Italie ce matin. Berlin où d'autres rassemblements sont prévus toute la semaine tant que la capitaine allemande ne sera pas libérée. Ce soutien populaire s'exprime aussi sur la toile au travers de deux cagnottes pour couvrir les frais de justice de Carola Rackete. Plus €1,225,000 déjà récoltés, c'est énorme. 410 000 euros sur une page Facebook italienne. Et côté allemand, ce sont deux humoristes, deux animateurs de télévision qui ont lancé ce week-end un appel aux dons. À elles seules, ce soir, cette cagnotte dépasse, Aurélie, les 815 000 euros grâce à plus de 30 000 donateurs. L'organisation allemande Sea-Watch a elle-même reçu plus de 10 000 euros de dons. La mobilisation est aussi, et bien sûr, diplomatique. Berlin a fermement exigé la libération de sa ressortissante dans la voix de son ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a placé cette exigence sur le terrain des valeurs. Il ne faut pas criminaliser le sauvetage en mer, dit le chef de la diplomatie allemande, qui espère une issue favorable dans les toutes prochaines heures et le retour à Berlin de la capitaine allemande.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin pour France Culture. Londres fait part de sa profonde inquiétude. Moscou appelle à ne pas dramatiser. Téhéran a annoncé avoir dépassé la limite des 300 kilos d'uranium faiblement enrichi, limite imposée par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. C'est un symbole fort formait pas une surprise compte tenu des tensions exacerbées actuellement entre l'Iran et les États-Unis. À Hong Kong, les manifestations pacifiques ont laissé place à l'action coup de poing. En ce jour anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine, des manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin ont forcé un barrage de police et envahi l'hémicycle du Parlement local. Ils y ont déployé le drapeau de l'époque coloniale britannique. Le gouvernement de Hong Kong dénonce l'extrême violence des manifestants. On retrouve sur place Florence de Changy.
Cela faisait des heures que les manifestants, très jeunes pour la plupart, tentaient par tous les moyens possibles de fracturer les grandes baies en verre haute sécurité du Parlement. Vers 21h, un passage a été ouvert et quelques centaines d'entre eux se sont engouffrés dans le bâtiment. Ils ont vandalisé l'hémicycle, badigeonnant les murs de graffitis et d'œufs cassés. Une pancarte installée au-dessus du pupitre du président déclare « Ce n'est pas une émeute, c'est une tyrannie » avec un jeu de mots sur les caractères chinois. La plupart des autres jeunes présents sur les pelouses avoisinantes étaient là par solidarité. Ils auraient préféré arriver à leur fin par des moyens paisibles, mais ils estiment avoir épuisé tous les moyens paisibles pour se faire entendre. Tristement, cette action brutale va forcément créer des réactions, alors que la marche de 2 millions de personnes du 16 juin n'avait rien obtenu. Avant cela, 1,5 million de personnes ont défilé paisiblement dans les rues de Hong Kong, comme chaque année le 1er juillet, encore et toujours pour demander les réformes démocratiques qui leur sont promises et garanties par leur mini-constitution.
Florence de Changy à Hong Kong. Andrés Manuel López Obrador célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de son élection à la tête du Mexique. Une élection qui avait suscité d'immenses espoirs et le président avait défini comme l'une de ses grandes priorités la recherche des 45 000 personnes disparues. Un vrai défi car on dénombre aussi 26 000 corps non identifiés, principalement des victimes de la violence liée au crime organisé et près de 500 fosses clandestines ont été retrouvées ces derniers mois creusées par les organisations criminelles pour se débarrasser de leurs victimes. López Obrador a annoncé la création d'un institut médico-légal national, mais dans la plupart des régions touchées par la violence, le manque d'infrastructures et de moyens pour conserver les corps est criant. Reportage d'Emmanuel Stills à Culiacán, capitale de l'état du Sinaloa.
Des corps non identifiés qui pourraient être ceux de nos disparus, c'est le sentiment qui submergeait Maria Isabel Cruz lorsqu'elle se rendait à la morgue de Culiacán à la recherche de son fils, un policier disparu en 2017. Depuis plus de 10 ans, la violence extrême a provoqué une saturation des installations.
Il y avait une puanteur insupportable. À l'arrière de la morgue, les corps étaient empilés n'importe comment, comme des sacs de marchandises.
Après le scandale des corps entreposés en plein soleil sur le parking de la morgue il y a 3 ans, le combat des familles de disparus a porté ses fruits. Le Sinaloa s'est doté d'un laboratoire de génétique et une nouvelle morgue, 10 fois plus grande que l'ancienne, sera bientôt inaugurée. Elle devra accueillir les restes qui sont régulièrement retrouvés dans des fosses clandestines, des découvertes qui ont modifié le travail des enquêteurs, selon José Luis Leiva, qui dirige le bureau de recherche des disparus du Sinaloa.
Désormais, notre personnel est formé à l'exhumation des restes trouvés dans ces fosses clandestines. Il y a une équipe de chiens pisteurs entraînée spécialement pour détecter les endroits où des restes humains ont été enterrés. Nous sommes aussi équipés de géoradars. C'est un défi que nous devons continuer de relever en perfectionnant nos techniques de recherche.
La situation du Sinaloa, avec ses milliers de disparus et de corps non identifiés, est similaire à celle d'autres régions du Mexique. Cette crise a été qualifiée par le président López Obrador comme le pire héritage reçu par son gouvernement.
L'accord commercial entre l'Union européenne et les pays membres du Mercosur continue de faire des vagues. Quel sera l'impact de cet accord sur les filières agricoles et sur l'environnement? La question est posée, y compris par des élus de la majorité. Pascal Canfin, par exemple, se dit prêt à voter contre le texte au Parlement européen s'il n'est pas plus contraignant que l'accord de Paris. Et les agriculteurs européens sont furieux. Ils appellent les États membres à ne pas ratifier l'accord signé vendredi. Bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir.
Avec cet accord, 99 000 tonnes supplémentaires de viande bovine devrait arriver sur le sol européen et 100 000 tonnes de volaille en plus, de la viande que l'Europe elle-même n'accepterait pas de produire, disent les agriculteurs.
Oui, des agriculteurs qui craignent l'arrivée de produits agricoles trop bon marché sur le sol européen, une viande notamment ultra compétitive car produite dans des conditions très différentes. Écoutez Patrick Benesi, secrétaire général adjoint de la FNSEA.
Quand vous pouvez utiliser les hormones, même si on va nous expliquer que ceux qui vont nous envoyer est sans hormones pour détecter des hormones, il faut que l'animal soit vivant. Donc ça veut dire que même s'il y a des contrôles sur les morceaux de viande à l'arrivée, ce sera quand même difficile de trouver quoi que ce soit. Forcément, ces moyens de production donnent une compétitivité telle que les prix peuvent être beaucoup plus bas. Nous avons des modèles de puces qui sont complètement différents. C'est plusieurs dizaines de milliers de têtes, voire centaines de milliers de têtes par ferme au Brésil. Nous sommes encore sur des exploitations familiales.
Des différences de standards de production qui risquent de mettre en péril l'élevage européen, déjà fragilisé, et qui ne seront pas compensées, pensent ces agriculteurs, par les exportations européennes sur le territoire latino-américain. Daniel Acevedo est responsable commerce à la COPA COGECA, le plus gros syndicat agricole européen. Pour lui, il existe une grande différence entre les traités signés avec le Mercosur et les précédents avec l'Amérique du Nord.
Le marché des États-Unis, nous achetons, mais aussi nous vendons. Donc, il y a un marché qui peut acheter des produits européens, comme le lait, des vins, etc. Donc, c'était plus équilibré le commerce entre les États-Unis et l'Europe. Avec le Mercosur, c'est complètement différent. Le Mercosur, ils vendent à l'Union européenne. C'est pas équilibré dans le paquet agricole. En fait, le marché Mercosur est grand, mais pas pour le produit des hautes valeurs européennes.
Un marché brésilien notamment pas assez mature pour acheter nos produits agricoles. Et puis, il y a le sucre de canne dont 180 000 tonnes détaxées vont arriver en Europe, alors que le sucre de betterave européen souffre déjà d'une grosse crise. Bref, les voix qui ne critiquent pas ce volet agricole de l'accord ne sont pas nombreuses. Elles viennent essentiellement de la Commission.
Anne-Laure Chouin, Paris remet en place le plafonnement des loyers. Plus d'un an et demi après son arrêt, la mesure s'applique à nouveau, mais seulement à Paris. Et le plafonnement des loyers ne s'applique pas à tout le monde. Seuls les locataires qui signeront leur bail à partir d'aujourd'hui pourront y prétendre. La mairie est enthousiaste, les propriétaires pas du tout. Et certains d'entre eux contestent déjà la mesure en justice, Hélène Fromanti.
Oui, l'Union nationale des propriétaires immobiliers qui avait déjà obtenu l'annulation du plafonnement version numéro 1 il y a 2 ans, récidive contre cette nouvelle mouture. Pour le directeur général de l'UNPI, Pierre Autu, cette mesure menace clairement l'offre locative dans la capitale.
On peut imaginer que c'est une bonne chose d'encadrer les loyers, mais à moyen et long terme, ça va détruire le nombre de logements qui sont mis en location chaque année à disposition des locataires. Bah, techniquement, c'est qu'à force d'ajouter un certain nombre de réglementations, les propriétaires vont y réfléchir à deux fois avant de mettre en location un logement, et donc parfois vendre ou laisser le logement vide. Ce qui fait que l'offre va diminuer. Et donc cette offre, il faut absolument la vivifier au contraire, et les systèmes d'encadrement des loyers ne va pas permettre d'améliorer les choses.
Sur un plan plus technique cette fois, l'UNPI estime aussi que la mesure est illégale, irrégulière sur plusieurs points. Selon l'organisme notamment, rien ne prouve que les loyers aient flambé ces dernières années dans la capitale, rien ne prouve que la ville de Paris réunisse tous les critères prévus par la loi pour mettre en place un plafonnement. L'association attaque donc en justice, elle a déposé un recours devant le Conseil d'État. Elle compte aussi attaquer l'arrêté de la ville de Paris d'ici à la fin du mois de juillet. L'avocat de l'UNPI, maître Alan Cohen Boulakia, ne cache pas ses ambitions.
Nous avons l'objectif de développer 240.
L'objectif de cette action, c'est de parvenir à la nullité du décret pris en juin 2019, de telle manière qu'il soit jugé que ce dispositif n'a pas lieu d'être à Paris. Il est certain que l'UNPI, que je représente, fera tout pour que ce dispositif soit annulé.
Et en 2015, la procédure entamée par ce même avocat avait mis 2 ans pour aboutir à l'annulation du plafonnement des loyers à Paris.
Hélène Fromanti. Jean-Michel Blanquer y voit un formidable levier de justice sociale et de dynamisme des territoires. Le ministre de l'Éducation veut relancer les internats. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Alain Kieffer.
Alors pas des internats à l'ancienne. Hein. Jean-Michel Blanquer annonce la création de 240 établissements d'ici la fin du quinquennat, des internats du 21e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, Hakim ?
Alors l'objectif est de redonner goût à l'internat et de créer 13 000 places supplémentaires, mais surtout de les moderniser avec 7 thématiques différentes en fonction des établissements, comme les sciences, l'écologie, le sport ou encore le numérique. Ce qui doit permettre notamment aux élèves les plus modestes de travailler dans des meilleures conditions, comme l'explique Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.
Nous avons l'objectif de développer 240 internats dans ce cadre-là. 100 internats vont correspondre à des résidences thématiques. Et puis, vous en aurez 100 autres qui seront des internats d'excellence, donc plus généralistes, et qui permettent d'accueillir des élèves très motivés, mais qui ont parfois des circonstances familiales difficiles, et qui seront mieux dans ce cadre épanouissant. Et puis, au moins 40, et probablement davantage, qui vont correspondre au nouveau campus professionnel que nous annoncerons bientôt, et qui, là aussi, correspondent à des thématiques d'avenir, dans l'enseignement professionnel, parce que ce soit dans le domaine du numérique, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du luxe et dans bien d'autres domaines, nous voulons des lieux qui font envie avec des internats.
Sur ces 240 internats, une très grande partie d'entre eux existe déjà. Il ne s'agira pas de création pure à 100%. Le ministère va en revanche financer avec les régions et les départements 2000 euros supplémentaires par an et par élève pour la mise en place de ce nouveau dispositif. Enfin, le système sera plus flexible puisque les élèves pourront également partir à l'internat dans une durée déterminée pendant 3 mois avant un examen comme le bac ou le brevet par exemple, ou encore pendant l'hiver pour les élèves qui habitent en montagne.
Hakim Kasmi, demain mardi, du soleil sur la moitié nord, un temps plus incertain et lourd sur le sud avec des orages du sud-ouest jusqu'au massif alpin. Les minimales iront de 11 à 24 degrés. L'après-midi, 19 à 30, encore de 30 à 37 sur les régions méditerranéennes. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.